Donc voici la version audio d'une page que vous trouverez sur le site web. Présentation de la Bible. Tout d'abord, je voudrais dire que cette page ne constitue pas une introduction exhaustive, loin s'en faut. Si vous désirez en savoir plus sur la Bible, son contexte historique, etc., il existe de très bons livres ou des pages de ce site web, allez sur l'espace public, qui peuvent vous permettre d'aller plus avant. Ceci étant dit, je me propose de faire ici une introduction de base en vue d'une légère initiation. À mon avis, une bonne introduction doit aborder la Bible sous au moins deux angles ou approches, le spirituel et l'historique. Commençons d'abord par l'approche spirituelle. Je commence par cette vue de la Bible parce qu'elle est à mes yeux la plus importante. Donc, petit a. Pour les chrétiens, ce livre n'est pas n'importe quel livre, il est le livre par lequel Dieu s'est révélé. Confère 2e épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Ce postulat est fondamental, c'est en effet de lui que dépend notre compréhension des textes bibliques. Il est très utile de se le rappeler quand nous rencontrons des passages qui nous heurtent ou nous paraissent sans intérêt. Il faut donc essayer de ne pas rejeter ces passages, mais de les comprendre, parce qu'ils sont aussi paroles de Dieu. Je dirais que lire la Bible, c'est un peu comme le sport. Il faut la fréquenter souvent pour habituer notre esprit, tout comme le corps s'habitue à l'effort par le sport pratiqué régulièrement. Il faut également ne pas perdre de vue le second postulat. Comme le disait Julien Green, la Bible est une lettre d'amour adressée à chacun d'entre nous par Dieu. Nous devons par conséquent toujours nous efforcer de trouver l'intention amoureuse de Dieu, ceci même dans les pages les plus obscures ou révoltantes de la Bible. Alors nous serons dans la bonne voie. Parfois nous trouverons même des perles spirituelles insoupçonnées dans de tels passages. Petit b. Le second postulat est tout à fait cohérent avec le message biblique, car il ne faut pas oublier que seul ce livre ose clamer que Dieu nous a aimés jusqu'à mourir pour nous en Jésus-Christ, ce qui, à mes yeux, suffit à prouver sa véracité. Je parle du message chrétien. Les autres religions, à ma connaissance, n'osent pas aller aussi loin. C'est comme si elles mettaient des limites à l'amour de Dieu. Oh, Dieu n'a pas pu aller jusqu'à se faire l'un des nôtres et mourir sur une croix en prenant nos péchés. La Bible nous l'affirme comme à son point central. Jésus-Christ est Dieu mort pour nous. Il est le message final, le message accompli de Dieu pour l'humanité. Confère Jean, chapitre 3, verset 16. Cela explique pourquoi Jésus est le sujet et l'objet, le centre du message biblique, la clé de compréhension. Il est le garant avec sa mort sur la croix que la Bible est avant tout une lettre d'amour. Petit c. La Bible est un livre à prendre au sérieux. Ses promesses sont aussi pour nous. Saint Paul n'interprétait-il pas certains passages de l'Ancien Testament comme étant destinés à ses propres communautés? Confère 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 12. Si déjà la Bible, à plusieurs siècles d'intervalle, s'approprie et réinterprète certains de ses passages plus anciens, nous aussi nous pouvons le faire dans une certaine mesure. Nous pouvons aussi nous approprier les promesses, etc. Alors seulement ce livre nous paraîtra nourrissant. Il est là pour influencer nos vies. Dieu nous parlerait-il sans vouloir laisser un impact dans notre vie quotidienne? Hébreux, chapitre 4, verset 12, Isaïe, chapitre 55, verset 10 à 12, par exemple. Petit d. Quelques conseils me semblent utiles avant de lire tout passage. D'abord, il est essentiel de demander à celui qui a inspiré la Bible de nous aider à la comprendre. C'est pourquoi il ne faut jamais commencer à lire la Bible avant de prier Dieu de nous éclairer. Il n'est pas nécessaire de commencer à lire la Bible par le tout premier livre. Je dirais même que cela n'est pas souhaitable. Celui-ci est en effet l'un des plus ardus à comprendre sans connaissance historique ou familiarisation suffisante avec la Bible. Pourquoi ne pas commencer par les évangiles? Saint Jean, par exemple. De toute façon, il est essentiel de suivre un plan de lecture biblique bien pensé. Lire la Bible en suivant les lectures proposées par la liturgie de l'Église est d'ailleurs une excellente méthode. Si vous d'ailleurs allez sur l'espace biblique de ce site, vous trouverez d'autres conseils, notamment sur comment lire la Bible et des précisions historiques, etc. Ça aussi, ça peut vous aider. Et maintenant, je me propose d'aborder la deuxième grande partie de cet enregistrement qui est l'approche historique. Parce que après, nous venons de traiter donc l'approche spirituelle ou l'angle spirituel. Maintenant, abordons l'approche historique. Alors, cette approche est indispensable. Elle permet notamment de comprendre certains passages difficiles ou révoltants de la Bible. Ce qu'il faut savoir, l'Église catholique affirme que les Écritures sont inspirées tout en reconnaissant la contribution des auteurs humains de ces livres, Confère Vatican II, Dei Verbum, et le catéchisme de l'Église catholique. Cela a des implications non négligeables que voici. La Bible n'est pas un livre dicté par Dieu à des secrétaires, à la manière du Coran. On ne peut donc pas raisonnablement s'attendre à ce qu'elle contienne des vérités scientifiques ignorées par les auteurs au moment où ils ont écrit. Certains ont écrit jusqu'à 1000 ans avant Jésus-Christ. Tout bien considéré, n'est-ce pas plus beau de penser que Dieu ne s'est pas servi des hommes pour dicter son message purement et simplement, mais qu'il a respecté leur personnalité, qu'il a travaillé avec eux, il a laissé un espace à leur génie personnel de créateur. Dieu a pris les hommes, les auteurs notamment, où ils en étaient. Il a modelé sa pensée dans le terreau culturel de l'époque des auteurs, ce qui explique les approximations scientifiques pour nous hommes du XXIe siècle. Cela explique aussi les passages guerriers ou choquants, la culture où baignaient ces auteurs étant extrêmement guerrière, etc. Ce qui ne veut pas dire que ces passages sont sans valeur, mais ils nécessitent une connaissance de ce terreau culturel qui, parfois, opacifie le message profond, celui de Dieu, modelé dans le terreau culturel. Pour le découvrir, il faut demander notamment, je dirais même surtout, l'aide de l'Esprit-Saint. Un exemple peut nous aider, les psaumes. Ils contiennent des versets parfois choquants. La clé, en fait, est de christianiser les psaumes. Dans le bréviaire, d'ailleurs, un verset du Nouveau Testament oriente la lecture du psaume vers une interprétation chrétienne. Ainsi, quand le psaume 104, quand dans le psaume 104, le psalmiste appelle la malédiction sur ses ennemis impies, nous pouvons, en tant que chrétiens, obtenir une lecture satisfaisante en interprétant cette malédiction comme un appel à bannir le péché, à ne pas composer avec cet ennemi. Et si malédiction sur les ennemis il y a, c'est en réalité un appel à prier pour leur salut et pour la mort de leur péché, et non pour leur propre destruction comme le psaume le suggère littéralement. Beaucoup de passages peuvent trouver une interprétation satisfaisante de cette manière. Jésus lui-même reconnaît que certains passages demandent une relecture, une adaptation, et ne doivent donc pas être pris à la lettre. Confère Matthieu, chapitre 19, versets 7 à 8. En résumé, un conseil absolu, priez, priez et priez, avant, pendant et après la lecture d'un passage. N'oublions pas non plus que malgré la diversité d'auteurs, Dieu est l'auteur profond et unique. Un passage peut par conséquent en éclairer un autre, même s'il a été écrit des siècles plus tard. Voir par exemple le passage du serviteur souffrant dans Isaïe 53, qui ne prend tout son sens qu'à la passion de Jésus-Christ et à la lecture de l'épître de saint Pierre, chapitre 2, versets 22 à 24. Alors maintenant, un autre point, toujours par rapport à l'approche historique que je souhaiterais aborder, c'est une petite introduction à la composition de la Bible, très succincte. La Bible, qui est en réalité une collection de livres, du grec biblia, les livres, a été écrite sur une période de plus de 1000 ans, de l'époque du roi David à celle des apôtres, sans compter la tradition orale qui remonte bien plus loin que l'époque davidique. Donc l'époque davidique, c'est entre 1000 et 900 avant Jésus-Christ. C'est là où les premiers passages, disons, ont été vraiment mis par écrit. Il y avait peut-être déjà quelques lois qui avaient été mis écrites avant, notamment des lois du Deutéronome de Moïse, les 10 commandements. Mais c'est vraiment à partir de l'époque de David que commencent à se former, disons, les premiers récits bibliques par écrit. Mais bien sûr, ils ont été précédés par une longue tradition orale. Donc je reviens, après cette parenthèse, à mon propos. Donc je parlais de la Bible et elle se compose pour les chrétiens de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Testament voulant dire alliance ici. La division, donc, s'opérant autour de la personne de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est à considérer comme l'accomplissement de l'Ancien Testament. En fait, l'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple d'Israël avant Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus et des débuts de l'Église. L'Ancien Testament se compose de 39 livres pour les protestants et de 46 pour les catholiques. Les 7 livres en plus sont appelés deutérocanoniques, deuxième canon, parce qu'ils ont été reconnus comme officiellement inspirés par l'Église catholique après le premier canon définissant la liste officielle des livres de l'Ancien Testament en 90 après Jésus-Christ. Le deuxième canon, donc des livres deutérocanoniques, est intervenu au Concile de Trente, 1545-1563. Alors, bien sûr, cela ne veut pas dire que ces livres ont été rajoutés arbitrairement. Il y a beaucoup de choses qui plaident pour l'authenticité de l'interprétation divine des livres deutérocanoniques. Il suffit de lire les Pères de l'Église et même certains passages du Nouveau Testament des Épîtres de Paul ou notamment des passages du Livre de la Sagesse, livre deutérocanonique, sont cités par l'apôtre et donc considérés probablement comme inspirés. Donc, voilà, je voulais dire aussi, donc je voudrais également préciser que les catholiques ont reconnu comme inspirés, et donc inclus, en plus des 7 livres deutérocanoniques, des passages supplémentaires à l'intérieur des livres d'Esther et de Daniel. Quant au Nouveau Testament, il se compose de 27 écrits. La liste, je ne vais pas vous la donner maintenant, mais disons, je vais vous donner un petit tableau qui va vous aider à voir les parallèles donc entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, pour si vous voulez trouver une liste, c'est ça qui m'a fait hésiter. Si vous voulez trouver une liste des 27 écrits et de tous les écrits de l'Ancien Testament, il vous suffit d'aller par exemple dans l'espace biblique au résumé biblique. Vous aurez donc un résumé de chaque livre biblique et une introduction à ces livres. Mais voilà un petit parallèle que je voudrais faire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour bien que vous ayez une idée de la façon dont est organisée la classification de ces livres. Vous avez dans l'Ancien Testament le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible sont les livres fondateurs du peuple juif. En parallèle, on peut mettre dans le Nouveau Testament les Évangiles, livres fondateurs du christianisme. Et puis nous avons, deuxième catégorie dans l'Ancien Testament, les livres historiques, l'histoire du peuple juif. Dans le Nouveau Testament, vous le trouvez en parallèle. Vous pouvez mettre ça en parallèle avec les Actes des Apôtres, l'histoire de l'Église primitive. Et puis vous avez dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle les livres sapientiaux, écrits de sagesse, proverbes, doctrines. Eh bien vous retrouvez cette classification dans le Nouveau Testament avec les Épîtres, qui sont des exposés de la doctrine chrétienne. Et enfin, dans l'Ancien Testament, vous avez ce qu'on appelle les livres prophétiques, donc des interprétations inspirées, des événements touchant ou allant toucher Israël. Eh bien, vous retrouvez l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, prophétie et révélation sur les derniers temps. Comme vous le voyez, ce parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui n'est pas du tout artificiel, mais qui saute aux yeux, montre bien la continuité entre les deux testaments. Voilà, c'est une petite introduction, certes. Si vous voulez un bon complément, vous trouverez la rubrique donc Espace biblique, notamment pour lire la Bible, et d'autres enregistrements qui pourront vous aider à approfondir votre connaissance. Je pense notamment à un enregistrement, le tout premier de la liste, dans le tableau de la page audio, qui s'appelle, je crois, Comment lire la Bible et pourquoi lire la Bible, qui vous donnera encore davantage de renseignements. Voilà, fin de l'enregistrement. Free audio post-production by Alphonic.com.